Il me reste à vous faire quelques annonces d'événements qui vont se produire cette semaine, événements que nous ont proposés certaines personnes que nous avons rencontrées au cours des multiples émissions que nous avons effectuées. Par exemple, le café-restaurant de la Pleine Lune. La Pleine Lune, non pas la nôtre, mais la Pleine, P-L-A-I-N-E, reste café-restaurant qui se trouve à l'avenue du Mail et qui vous propose le jeudi 2 février un repas latino-américain avec suivi d'un montage multivision avec 6 projecteurs sur écran géant qui a pour titre Diagonale à travers les Andes et qui est présenté par Rolf Obrich et sur une réalisation de Daniel Casagrande avec une musique originale de Pierre-Alain Hoffmann. Le repas est proposé à 19h, le spectacle multivision à 20h45. Vous pouvez réserver, on vous dit même qu'il est prudent de réserver votre repas et ceci, prenez vos crayons au 329 53 09. Le repas et le spectacle ensemble vous sont proposés au prix de 35 francs. Si vous venez pour le spectacle seul à 20h45, vous devrez payer 12 francs, 10 francs pour étudiants, AVS, etc. Je répète donc, demain, jeudi 2 février, repas latino-américain et grande présentation en multivision sur le thème Diagonale à travers les Andes au Café La Pleine Lune. Café La Pleine Lune dont nous avons reçu l'animatrice Ariane Jacquet dans une de nos émissions il n'y a pas longtemps. Alors je vous résume en quelques mots cette Diagonale à travers les Andes. Imaginez, je cite un extrait du diaporama, imaginez un nouveau continent qui s'étend sans limite là-bas au loin. Ce monde-là est un monde de contraste. Les déserts les plus arides y côtoient la végétation la plus dense. Les plus hautes montagnes, les immenses plaines de la Pampa, le feu des volcans en éruption, les glaciers gigantesques. Vous y êtes alors en route. Mais par où commencer? Par le nord, le sud, l'est, l'ouest? Et si nous nous élevions sur ces montagnes immenses? Donc, nous vous proposons de suivre la trace de quelques illustres explorateurs qui sont partis à la découverte de ce pays. Voilà, alors vous pourrez découvrir les régions aussi diverses que le sommet de la Concagua, le plus haut du continent, le bassin amazonien, les îles Galapagos, les plus hauts sommets de l'Équateur, la plante Puya Raimondi qui fleurit une fois par siècle, les mystérieuses lignes de Nazca au Pérou et les sanctuaires de hautes altitudes. Et le voyage se termine par la visite de Grand Désert Salé, de la plus haute mine du monde à 6000 mètres d'altitude, avant d'arriver aux fameuses formations géologiques du Fitzroy et du Cerro Torre en Patagonie. Voilà, je répète, jeudi 2 février, café La Pleine Lune, repas latino-américain plus multivision spectacle, à 19h le repas et le spectacle 20h45.
Detta kiti body shambai, body shambai spiagna terra, body shambai salvagna mai, oh ma.
Je m'excuse d'interrompre la belle Cesária Évora, cette chanteuse du Cap-Vert si magnifique, la chanteuse aux pieds nus comme on parle d'elle, pour vous parler d'une exposition qui a été annoncée de façon assez étrange. Le thème de l'exposition, c'est « Femmes photographes », donc bien évidemment, cela attire mon attention. Cette exposition est proposée par l'Université ouvrière de Genève, centre de formation continue des travailleurs. Je vois... Contenu de l'exposition, eh bien, Jésus Moreno, photographe, nous propose une série de conférences, projections, prétextes à promenade à travers l'histoire de la photographie. Sur le thème « Femmes photographes », nous découvrirons en 8 semaines celles qui ont su imposer leur personnalité et leur vision du monde dans un univers difficile où l'homme domine jalousement. Seront évoquées Julia Margaret Cameron, Tina Modotti, Margaret Burke White, Lisette Mordel, Diane Sorbus et Lee Miller et bien d'autres. Me direz-vous, mais comment se fait-il qu'alors qu'on a l'intention de parler des femmes qui ont eu tellement de peine à imposer leur personnalité dans le monde jalousement contrôlé par les hommes de la photographie, que ce soit un homme qui fasse les différentes conférences? Pourquoi n'y a-t-il pas une femme qui pourrait faire une conférence sur ce thème-là? Enfin, bref, si vous avez envie de découvrir ces femmes photographes, eh bien, les conférences auront lieu les jeudis 9, 16 février et puis le 2, 9, 16, 23 et 30 mars de 18h30 à 20h, donc à l'Université ouvrière de Genève. 10 rue du Cercle. Les délais, vous devez vous inscrire, c'est 15 jours avant le début des conférences, donc comme c'est le 9, il vous reste très peu de temps pour le faire, cela vous coûtera 110 francs, à moins que vous ne soyez membre de l'Union ouvrière genevoise et que vous payiez alors 80 francs. Voilà. Le 7 mai 1994 avait lieu à Genève une journée de réflexion sur le thème « Femmes et politique » à laquelle avaient participé environ 45 femmes provenant d'horizons différents, des femmes qui sont engagées dans le monde associatif, syndicaliste, féministe, historique et quelques plus jeunes femmes. Cette journée avait été organisée par le groupe de travail « Femmes, féminisme et pouvoir ». Après avoir consacré à ce jour-là la matinée à écouter des intervenantes qui nous ont fait part de leurs réflexions et de leurs pratiques en Suisse allemande, les participantes avaient poursuivi la discussion dans des groupes de travail. Et à l'issue de cette journée, les participantes avaient émis le souhait que le processus de réflexion ainsi amorcé soit poursuivi et avaient mentionné plusieurs thèmes qu'elles souhaitaient aborder. Parmi ceux-ci, le groupe Femmes, Féminisme et Pouvoir propose aujourd'hui de retenir deux sujets et qu'il soit discuté dans le courant de l'année 95. Alors, le premier sujet, bilan de 20 ans de féminisme, quels sont les acquis, quelles étaient les idées de fond qui ont donné naissance au mouvement féministe, ces idées sont-elles encore valables aujourd'hui? Deuxième question, deuxième problème, quelles perspectives et comment s'organiser en tant que féministe? Est-ce qu'un mouvement autonome des femmes est nécessaire? Quelle forme d'organisation, quel mode de fonctionnement se donner pour être plus forte? Alors, le groupe de travail Femmes, Féminisme et Pouvoir vous invite à venir discuter de ces questions au cours d'une journée qui aura lieu le samedi 6 mai 1995. Le lieu vous sera confirmé plus tard. Et si à l'issue de cette journée, les participantes estiment nécessaire de poursuivre le débat, une nouvelle rencontre pourrait avoir lieu le samedi 10 juin, pour autant que quelques femmes prennent en charge l'organisation. Les femmes qui s'inscriront recevront des textes traitant des sujets choisis et la modeste contribution de 25 francs qu'il vous est demandée servira entre autres à l'imprimerie de ces textes, aux envois, etc. Vous connaissez bien les divers problèmes. Vous pouvez aussi, vous, en tant que participante inscrite à ce séminaire, à cette rencontre, contribuer aux réflexions en nous envoyant vos propres contributions écrites. Et bien sûr, le groupe Femmes, Féminisme et Pouvoir se chargera de les diffuser auprès des personnes inscrites. Alors, si vous êtes intéressé à recevoir les textes, à participer à la journée de réflexion du 6 mai 1995, eh bien, le groupe Femmes, Féminisme et Pouvoir vous prie de vous inscrire avant fin février 1995, donc vous avez un mois pour le faire, à verser la somme de 25 francs pour couvrir les frais de photocopie d'envoi, etc. Et ceci, donc votre inscription, tout simplement en précisant « je m'inscris pour l'atelier du samedi 6 mai 1995 et je vous verse la somme de 25 francs », vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse, votre téléphone. Si vous participez à un groupe ou une organisation, vous pouvez le préciser. Et vous envoyez le tout avant le 28 février 1995 à groupe de travail femmes au pluriel, féminisme au pluriel et pouvoir au pluriel, case postale 459 1211 Genève 24. Je répète, groupe de travail femmes, féminisme, pouvoir, tout cela au pluriel, case postale 459 1211 Genève 24. Ceci pour participer à un atelier sur le 6 mai 1995 sur le thème bilan de 20 ans de féminisme. Quels sont les acquis? Quelles étaient les idées de fond qui ont donné naissance au mouvement féministe? Ces idées sont-elles encore valables aujourd'hui? Quelles perspectives et comment s'organiser? Est-ce qu'il faut un mouvement autonome des femmes? Qu'est-ce qu'un mouvement autonome des femmes? Et quelle forme d'organisation, quel mode de fonctionnement se donner pour être plus forte? Jean-Claude Moret, si bon égard. Vous pouvez aussi tout simplement nous téléphoner à Onde Femme Radio Zone pendant nos émissions en direct, c'est-à-dire tous les mercredis de 17h à 20h, en appelant le 50 40 51 41. Je répète, 50 40 51 41 023 si vous appelez depuis la Suisse voisine, Genève, Lausanne et Verdon. Et puis, nous vous enverrons le bulletin d'inscription, le bulletin de versement, le petit texte, la petite lettre qui accompagne cette invitation. N'hésitez pas.
Si bonégant, querida.
Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aller en train d'Helsinki à Pékin. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté qui organise un train spécial qui va emmener les femmes qui veulent aller à la conférence internationale sur la femme à Pékin, donc prévue pour fin août 1995. Eh bien, cette Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté organise un train qui voyage de Helsinki à Pékin du 7 au 29 août 1995. Et l'idée, c'est de faire de nombreuses haltes comme Saint-Pétersbourg, Kiev, Bucarest, Sofia, Istanbul, Odessa, Alma-Ata, Urumqi et pour arriver finalement à Pékin. Et à chacune de ces haltes, eh bien, on propose de rencontrer les femmes de la ville et d'avoir différentes rencontres avec elles pour discuter avec elles. Et puis, arrivé à Pékin, tout comme à Nairobi en 1985, eh bien, il y aura une tente, la tente de la paix, qui est ouverte à toutes les organisations et tous les groupes qui veulent discuter des obstacles pour la promotion de la paix à l'heure actuelle et discuter des questions de femmes avec les organisations non gouvernementales. Alors, le train de la paix, puisque tel est son nom, est une action de femmes, mais les hommes n'en sont pas exclus, précise le papier que j'ai sous les yeux. Il y a, on réserve 10% des sièges aux hommes et l'âge minimum pour voyager est de 14 ans. Il y aura 200 personnes dans ce train. Ceux qui ont envie de se joindre à ce train doivent évidemment réserver une place dans le train. Et une fois que la réservation est acceptée, il faut bien sûr payer. Et c'est malheureusement une somme assez conséquente puisque le prix d'un billet de train pour faire ce long voyage est de 2 400 $. Il inclut tous les repas pris dans le train, le logement en hôtel durant les divers arrêts du train dans les différentes villes que je vous ai citées tout à l'heure. Vous devrez par contre payer en plus les repas que vous prendrez hors du train. Bien sûr que le coût total de votre voyage dépend de la distance que vous ferez avec le train et puis bien sûr d'où vous venez puisque le train part de Helsinki, va jusqu'à Pékin. Bien évidemment que l'aller jusqu'à Helsinki et le retour de Pékin sont encore en plus à votre charge. Voilà, mais si vous souhaitez participer à cette grande aventure, eh bien, je vous dis vite, je sors vite mon petit papier, mais là de nouveau, je crois que le plus simple, ce serait que vous nous appeliez à Onde Femme au 50 40 51 41, 023 depuis la Suisse voisine, et que vous nous demandiez une copie des papiers qu'il vous faut envoyer donc à la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté pour vous inscrire, réserver un certain nombre de places dans le train, dire quels sont les sujets qui vous intéressent en particulier, qui sont cités dans les papiers que je ne vous ai pas tout lus. Et puis, si vous avez l'intention éventuellement d'aider, de sponsoriser le voyage de quelqu'un d'autre, par exemple d'une jeune femme qui voudrait participer, qui n'a pas l'argent pour le faire, ou bien une contribution quelconque que vous voulez faire au projet. Alors, n'hésitez pas à nous téléphoner, je crois que c'est le plus simple, ou bien d'appeler directement la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté au numéro de téléphone suivant à Genève, le 733 61 75. Je répète, à Genève, le 733 61 75, Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, 1 rue de Varambé. Pote mania de ser alguém, cabocha nada enganó. Pouca sabe fazer drible, pote mania de dança swing. Pote mania de ser alguém, cabocha nada enganó.
Vou cá saber fazer drible, vou ter mania de dançar swing.
C'est toujours Césaria Évora qui nous accompagne et j'avais juste envie de vous faire une dernière annonce. Le mercredi 8 février à 21h au Arthur's Club, je ne fréquente d'habitude pas tellement ce lieu, je ne sais pas si vous y allez, mais ce soir-là, il y a un concert magnifique puisque ce sont les Mint Julep, c'est-à-dire 6 femmes qui chantent et qui jouent d'instruments divers et qui seront ce soir-là en concert. Je répète, le mercredi 8 février 21h au Arthur's Club de Genève, les Mint Julep en concert et vous pouvez réserver vos places si vous voulez, ou acheter vos places au Grand Passage, par exemple, ou bien les portes seront ouvertes dès 20h.
Ma Deus, que ta travida pel mandam passé nes cantin triste de me nes cantin de tormento. Cabo Verde, já espera-te. Mas ainda tem fé e esperança. Mas Deus, que está travida, permanda um passeio nesse cantinho triste de mim. Nesse cantinho de tormento, minha fé, minha esperança é de vai para longe, é de vai para terra grande, terra de felicidade. Cabo Verde, já espera-te, mas ainda tem fé e esperança. Mas Deus, que está travida, permanda um passeio nesse cantinho triste de mim, nesse cantinho de tormento. Minha fé, minha esperança e na Deus contente e na Virgem Maria que está nascendo e na terra. Minha fé, minha esperança e na Deus contente e na Virgem Maria que tá nascendo e na terra.
Si vous ne la connaissiez pas déjà, c'est Césaria Évora, cette chanteuse du Cap Vert qui chante pieds nus sur la scène. Bon, ça dépend où vous l'entendez. Moi, je dois vous avouer que je l'ai entendue dans une immense salle, la salle Stravinsky à Montreux. La pauvre Césaria Évora, je l'ai trouvée un petit peu perdue dans cette immense salle. J'aurais bien aimé l'entendre chanter sur une plage avec le frouch-frouch de la mer. Ça aurait été tellement mieux. Ou en tout cas, dans un endroit un petit peu plus intime. Mais pour nous ici, qui avons des choses à nous dire, eh bien, elle nous accompagne avec beaucoup de plaisir. En tout cas, nous en sommes très, très heureuses de l'avoir avec nous encore un instant. Alors, malheureusement, le temps file à une allure incroyable. Je n'aurai pas le temps de vous lire, comme j'en avais l'intention, une des nouvelles extraites d'un livre écrit par Anne-Marie Schwarzenbach, Orient Exil. Ce ne sont pas des textes récents, bien évidemment, puisque Anne-Marie Schwarzenbach est morte à 34 ans en 1942 et qu'elle laissait à cette époque une œuvre très importante mais qui était très peu connue et que justement l'on découvre aujourd'hui. Alors les nouvelles contenues dans Orient Exil ont été publiées seulement en 1989 en allemand et viennent d'être publiées en français dans les éditions Autrement. Vous connaissez bien déjà les éditions Autrement, j'en suis sûre, qui nous ont fait nous balader dans toutes les villes du monde et à travers divers sujets et thèmes qu'ils ont creusés. Et puis, ils se mettent à publier aussi des textes et des récits intéressants. Alors, ces diverses nouvelles d'Anne-Marie Schwarzenbach sont très émouvantes, surtout quand on imagine un petit peu le trajet de cette jeune femme. Alors, je vous répète peut-être juste quelques mots de la vie d'Anne-Marie Schwarzenbach et peut-être cela vous donnera-t-il envie de vous plonger dans les nouvelles de Orient Exil. Elle a connu Thomas Mann et Thomas Mann l'appelait l'ange dévasté. Les amours ratés, les années de voyage ou d'errance, les conflits intérieurs, la drogue avaient eu raison d'Anne-Marie Schwarzenbach qui n'avait que 34 ans, je vous le disais, lorsqu'en 1942, elle mourut à Sils Maria, en Engadine, des suites d'un accident de bicyclette, laissant à ce moment-là donc une œuvre très importante. De nombreux articles, des reportages photographiques, des récits et des romans rapportés de ses innombrables voyages autour du monde. Bien que les grands journaux et magazines suisses tels la Neue Zürcher Zeitung ou le Zürcher Illustrierte avaient publié à l'époque son travail documentaire, son nom était resté pendant longtemps peu connu du public. Elle signait d'ailleurs généralement ses reportages du pseudonyme d'Anne-Marie Clark. Il fallut attendre le libre accès aux archives pour découvrir l'œuvre littéraire de celle dont la personnalité a inspiré une autre grande écrivaine, Ella Maillard, et en qui elle avait personnalisé Christina, l'héroïne de son roman « La voix cruelle ». Née en 1908 dans une famille de la grande bourgeoisie industrielle suisse, alliée aux forces militaires et conservatrices, je pense que le nom Schwarzenbach vous dit bien sûr beaucoup de choses. C'est un des derniers Schwarzenbach, mort récemment, qui avait lancé toutes les initiatives sur la restriction de travailleurs étrangers en Suisse. Mais ses prédécesseurs avaient enrichi la Suisse avec leurs usines d'armement. Eh bien, Anne-Marie, donc issue de ce milieu grand bourgeois industriel, avait appris dès sa naissance, elle le dira plus tard, que capitalisme se conjugue avec nationalisme, voire avec national-socialisme. Et ses choix personnels, son activité de journaliste, la conduisirent à prendre position contre tout ce que sa famille vénérait et tout ce qu'elle abhorrait. La montée du nazisme en Allemagne, et elle était pour les mouvements syndicaux aux États-Unis et pour la nouvelle Russie, comme on disait à l'époque. « Si l'on ne veut pas rester 30 ans sous les verrous, dit-elle, il est bon de prendre le large à temps. » Et elle dit cela en 1940 à propos de la Suisse, dans un roman qu'elle a nommé « La vallée heureuse ». Et c'est sans doute cette conviction qui l'a poussée à entreprendre très tôt de nombreux voyages et à s'éloigner aussi bien de son pays que de sa famille. Comme ces années, Erika Mann, qui a vécu de 1905 à 1969, ou Ella Maillard, née en 1903, et qui a toujours le bonheur de nous faire part de ses pensées aujourd'hui, elle appartenait à une génération de femmes en pleine transformation et qui faisaient leurs premiers pas hors du champ clos imposé par l'ordre patriarcal. L'apprentissage de cette liberté pour Anne-Marie Schwarzenbach coïncida avec le début des grands tremblements sociaux et politiques du XXe siècle. Mais à la différence de son amie Erika Mann, Anne-Marie Schwarzenbach eut toujours certaines difficultés à choisir réellement son camp. Si ses origines sociales, sa nationalité suisse la protégeaient en quelque sorte, elle rendait aussi toute décision plus difficile. L'impossibilité à choisir entre sa famille et l'idéal politique et social qui animait Klaus et Erika Mann la poussa vers un univers où le temps s'effaçait devant le rêve, vers un Orient mythique où la civilisation européenne n'avait pas encore jeté le trouble et où l'on pouvait oublier l'Europe et ses séismes. Mais sa course à travers le monde lui laissa toujours un certain goût amer, la ramenant inéluctablement vers l'Europe où elle aurait souhaité s'engager activement dans la lutte antifasciste sans toutefois s'y résoudre. Le 12 octobre 1933, Anne-Marie Schwarzenbach entreprend donc son premier grand voyage de reporter au Proche-Orient. C'est la Turquie, la Syrie, le Liban, la Palestine, l'Irak et la Perse. De retour en Suisse, elle se retire, reprend ses notes et écrit le récit de son voyage qui a pour titre « Hiver au Proche-Orient » qui sera publié quelques mois plus tard. Et dans la foulée, elle écrit aussi un cycle de courts récits, dont certains ne paraîtront en langue allemande, je vous le disais, qu'en 1949, et qui paraissent aujourd'hui en français sous le titre de Orient Exil, dont j'aurais aimé vous lire un des récits aujourd'hui, mais que je reporterai une prochaine fois. Une femme, Dominique Grenet et Nicole Müller, qui ont fait une biographie d'Anne-Marie Schwarzenbach, qui a pour titre « L'ange inconsolable », disent d'elle « plongée dans l'intemporel et l'incertain ». Éloignement de tout ce qui lui était jusque-là familier, le voilà voyage confère à Anne-Marie Schwarzenbach un regard tout aussi curieux que mélancolique. Dans ce livre, Orient Exil, eh bien, c'est 14 petits récits très courts qui nous emmènent d'Alep à Damas, de Palestine en Perse, de Beyrouth à Téhéran, à la suite d'une femme seule qui éveille bien vite l'intérêt de la colonie européenne partout où elle passe. Alors qui est-elle? Une baronne? Une aventurière? Qu'est-ce qu'elle venait faire ici? L'œil de l'auteur s'arrête, tel l'objectif d'une caméra, sur des scènes du quotidien qui la fascinent par leur étrangeté ou leur forme, leur force émotionnelle. Quelques brèves allusions à l'Europe suffisent à les dater. Les paysages séduisent, les steppes arides, les longues colonnes de chameaux, les dunes, bref, la violence inouïe du climat qui révèle la force d'une nature au sein duquel l'homme est un grain de sable minuscule. Et l'écriture d'Anne-Marie Schwarzenbach est fine, serrée, retenue, impressionniste. Voilà tout ce que vous pourrez découvrir en lisant les nouvelles contenues dans Orient Express, écrit par Anne-Marie Schwarzenbach et publié aux éditions Autrement.
Washeya soma na pau tra zemle mansa i soda dice me lumina nesmarasu pamba spidi dinya creche Washia soma na peu trazem lembrança e saudade te me ilumina nesse mar azul pamba espiri minha creche Sans visser papier et fleurs, pour mania crêche, j'abat. Nous en assez, mais pour cela, est-ce ma tristesse divine? Sans visite papier et fleurs pour mania crêche j'abaille nous en assez.
Chers auditrices, chers auditeurs, Remue Ménage s'est terminé aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous, si vous voulez nous réentendre, pas en direct, cette fois-ci en différé, eh bien, branchez-vous sur 93.8.